Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à ce nouvel épisode d'InnoVed, un balado sur l'innovation en éducation par Mathieu Gauthier. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode. Donc, je voudrais commencer par saluer des nouveaux abonnés sur Twitter. Donc, on a Rachel Gauthier, aucun lien parenté avec moi, Valérie Raté, Sophie Chrétien. Donc, bienvenue au groupe. Aussi, dans le groupe Facebook, on a des nouveaux invités là aussi, des nouveaux membres. Donc, Annick Duplessis, directrice ici dans mon district scolaire. Maxime Pêcheur, on se croise des fois sur Twitter. Et Cici Caron, une collègue aussi, ici au Nouveau-Brunswick, secteur anglophone. Donc, merci tout le monde de vous joindre à moi. Cette semaine, j'ai eu la chance de m'entretenir avec M. Rino Lévesque, qui travaille pour Idée Éducation Entrepreneuriale. Donc, c'est le fondateur de cet organisme. Donc, Idée Éducation Entrepreneuriale travaille beaucoup à faire de l'entrepreneuriat conscient auprès de nos élèves. Donc, on va discuter avec M. Lévesque sur comment on peut faire avancer cette culture-là dans nos écoles. Et aussi, on va terminer l'entrevue à voir comment eux ont pris le virage-là avec la condition actuelle de la pandémie. Donc, comment on peut faire ça dans un contexte où est-ce que les gens sont confinés à la maison ou sur le point d'être au retour à l'école là, progressivement. Au Nouveau-Brunswick, nous, c'est peut-être en septembre, c'est plus vers septembre 2020. Mais je sais qu'au Québec, c'est déjà commencé. Donc, bon épisode! Donc, chers auditeurs, je suis maintenant en présence de M. Rino Lévesque qui a accepté notre invitation. Donc, merci Rino.
Ça me fait vraiment plaisir.
Donc, Rino, un peu pour que mes auditeurs puissent en savoir un peu plus sur toi, peux-tu nous parler un peu de ton projet de vie carrière et comment ça a évolué au fil du temps?
Ah, alors ça, c'est une histoire qui commence à être longue. Évidemment, moi, je suis enseignant à l'origine. Puis, rapidement, je deviens directeur d'école. Seulement quelques années après avoir débuté ma carrière en tant qu'enseignant, c'était dans l'Ouest canadien. Donc, ça a été une expérience extraordinaire. D'abord, moi-même, je suis formé en environnement au Nouveau-Brunswick, au collège communautaire. J'ai été formé aussi après ça en biologie et dans d'autres domaines, parce que je suis multidiplômé, notamment en éducation. En particulier, même une majeure en histoire. Donc, j'ai été curieux très jeune, puis ça m'a amené à me déplacer de province dès le début des années 90, où j'ai accepté un poste sur l'île de Vancouver, à Victoria, où j'enseignais là, au niveau des sciences au secondaire. Puis rapidement, en tant que directeur d'école, par la suite en Saskatchewan, j'ai toujours travaillé dans les milieux, à l'époque, là, dans le milieu minoritaire francophone canadien. Là. Donc, c'était des écoles francophones. D'ailleurs, en Colombie-Britannique, quand on avait débuté, c'était la seule école francophone de toute la Colombie-Britannique, bien qu'il existait à l'époque des programmes d'immersion, mais une école authentiquement francophone, il n'y en avait qu'une pendant un temps, c'était celle de Victoria. En Colombie-Britannique, donc dans cette province-là. Et puis, voilà, c'est ma carrière est partie du Nouveau-Brunswick vers l'ouest. Puis doucement, je suis revenu vers le centre. En 1999, je deviens directeur d'école, cette fois-ci au primaire. En Saskatchewan, j'étais directeur d'école d'une maternelle à 12, mais il m'avait embauché pour mes compétences particulièrement au secondaire. J'avais à peine 30 ans, 31 ans. Mais évidemment, j'avais des adjoints à ce moment-là pour le secteur primaire. En 99, je me déplace au Québec. Mon épouse voulait qu'on rentre au Québec. Alors, on était rentré au Québec. Et puis, voilà, je deviens directeur de deux écoles primaires à ce moment-là, à Québec. Et là, va se passer quelque chose d'important, mais ça avait déjà commencé dans l'Ouest, autour du projet dont on aura le plaisir de discuter tout à l'heure. Et la suite va se produire à partir de 2005 au Nouveau-Brunswick, où je vais revenir, c'est-à-dire plus précisément en 2007 au Nouveau-Brunswick, mais en 2005, déjà, j'amorce une expérience nouvelle, c'est-à-dire on avait développé ce projet d'école communautaire entrepreneuriale dans les années qui avaient précédé au Québec, et tout ça s'est amorcé dans l'Ouest canadien, et c'est l'approche qu'on appelle l'approche pédagogique en entrepreneuriat conscient. Et puis vers 2005, mais voilà, une expérience nouvelle commence au Nouveau-Brunswick, Oui, il y a de l'intérêt là qui est manifesté par le ministère de l'Éducation, le sous-ministre en titre de l'époque. Il va y avoir des ministres autant du côté conservateur que du côté libéral qui vont venir visiter mon école à Québec, c'est l'école Cœur-Vaillant. Et une des personnes d'ailleurs qui sera parmi un groupe à un moment donné autour de 2005, c'est Monsieur Alain Poitras. Et on pourra, l'histoire veut qu'on va débuter une première expérience d'éducation entrepreneuriale consciente dans cette école-là où il était directeur, c'est-à-dire à Saint-André, au Nouveau-Brunswick. Et la suite, ben, ça a donné lieu à énormément de ces projets-là qui ont pris vie dans de nombreuses écoles de la province du Nouveau-Brunswick, et puis plus fortement à partir de 2007. Parce que là, moi, on me propose de déménager dans ma province avec toute ma famille pour vraiment faire autant d'écoles selon ce modèle-là dont il serait possible de faire. Évidemment, avec la volonté des gens, des commissions scolaires, c'est-à-dire des districts scolaires, excusez-moi l'erreur de thème, mais au Nouveau-Brunswick, on parle bien de districts scolaires. Donc, ça a été une expérience extrêmement intéressante au Nouveau-Brunswick. Je vais y passer quand même plus de 3 années directement sur place, à Fredericton, avec toute une équipe où je vais travailler avec plusieurs personnes, dont M. Poitras, mais aussi toutes les directions générales à l'époque, des commissions scolaires, des enseignants, des directions d'école. Ça va m'amener à redécouvrir ma province, mais particulièrement à redécouvrir, encore plus important pour moi, là, l'Acadie et sa francophonie. Voilà.
Merci, Rino. Donc, c'est ça. Dans son entrevue, justement, Alain Poitras avait parlé de ce moment marquant-là d'avoir été visiter votre école, l'école des Cœur-Vaillants. Puis je pense que ça a été un moment charnière dans sa carrière comme pédagogue. Puis il nous avait partagé ça là, sur les ondes de cet épisode. Maintenant, vous travaillez beaucoup avec de l'entrepreneuriat conscient. Donc, Rino, est-ce que vous pouvez nous aider un peu à définir qu'est-ce que c'est? Puis pourquoi on met beaucoup d'accent sur le terme conscient? Donc, qu'est-ce que cette valeur pédagogique-là d'avoir de le faire consciemment?
Bien, je crois que si on prend les deux mots, là, entrepreneuriat conscient, je ne sais pas si vous seriez d'accord avec moi ou ce que va en penser le public et le monde de l'éducation au Nouveau-Brunswick, mais je pense que c'est devenu le mot le plus important sur lequel il faut insister. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'abord parce que on peut le voir, le mot conscient en soi réfère à 3 choses particulièrement. D'abord, la conscience de soi pour le jeune. C'est d'apprendre à découvrir ses passions, ses forces, ses talents, à avoir tous les possibles, quoi, pour lui-même, pour l'enfant. Puis c'est peut-être aussi quelque chose comme, parce qu'on parle d'entrepreneuriat aussi, hein, donc de voir l'impact de son mode d'entrepreneuriat sur soi-même. Donc, c'est cette prise de conscience-là. Et d'ailleurs, pour en faire référence, on dit souvent que le jeune, ce qu'on veut développer, c'est l'entreprise de soi. Vous voyez le sens? Et devenir l'entrepreneur de soi, quel que soit le métier que je ferai. Souvent, on a dit, par exemple, le projet, ce n'est pas de former que des entrepreneurs au sens littéral du terme, en faire des PDG d'entreprise. On aurait un problème, d'ailleurs, si tout le monde était l'entrepreneur de l'entreprise. Il faut une équipe. Mais c'est de faire plutôt en sorte que chaque jeune devienne plus entrepreneur, plus innovant dans sa vie à lui, quel que soit le métier qu'il fera. Puis, l'espoir, c'est que aussi émerge un nombre d'entrepreneurs plus conscients et plus ingénieux pour eux-mêmes et aussi pour la communauté qu'ils desservent. Donc, d'abord, premier niveau de conscience de soi. Deuxième aspect par rapport à la conscience, il faut parler de conscience communautaire. Alors, c'est ce qui est proche de moi. C'est d'agir positivement sur ce qui m'entoure, d'être solidaire avec ce qui m'entoure, d'être capable de je dirais, d'une solidarité émotionnelle face à ce qui est autour de moi, aux besoins qui sont nombreux. Donc, la conscience communautaire, c'est d'apprendre à agir localement, d'apprendre à agir pour le développement durable de sa communauté, puis je dirais le bien commun de sa communauté. D'abord. C'est la conscience de l'impact de son mode d'entrepreneuriat, si vous voulez, sur les autres. hein, sur ce qui m'entoure, sur les autres en tant que tel. Et puis même si on veut parler d'équilibre, là, sur la nature aussi, qui nous nourrit. Ah, deux niveaux de conscience, et puis un troisième. Alors là, je vais parler de conscience planétaire. Hier, c'était le jour de la Terre, justement. J'ai fait une note là-dessus. Et il nous faut, plus que jamais, là, on est invité à contribuer à une Terre, à une planète Terre en santé. Et c'est un défi considérable. Je pense qu'avec la COVID-19 actuellement, hein, qui est partout, on a évidemment pas besoin d'en parler davantage, les gens en parlent suffisamment, mais ça montre bien qu'on a exercé sur le vivant un stress considérable, mais aussi qu'on a eu des comportements parfois qui étaient des comportements qui ne respectaient plus la nature, qui ne respectaient plus les lois, je dirais, de la nature. Par exemple, en sacrifiant des écosystèmes, en disant, bah, c'est loin de moi, celui-là, c'est peut-être pas grave au fond. Mais en vérité, il n'existe qu'un seul écosystème. Et il correspond à cette biosphère qu'on cohabite, puisqu'on la cohabite, cette biosphère, hein, on est pratiquement maintenant 7,5 milliards, je pense, sur Terre. Puis on la cohabite, puis on n'est pas seul en tant qu'être humain. On la cohabite avec des milliers, des millions, des milliards, je devrais dire, d'espèces qui de quelles espèces on dépend au fond, nos vies dépendent. Donc on a rompu pas mal d'équilibre. Il faut réapprendre à comment on peut contribuer à rétablir ces équilibres-là. Donc, la conscience planétaire va dans ce sens-là. C'est la conscience des autres. C'est une conscience biosphérique, pour employer un terme un peu compliqué, mais qui veut juste dire que tout ce qui vit sur Terre, on ne peut pas se dire, ben, c'est loin de moi, c'est peut-être pas grave. On se souviendra, hein, vous vous souvenez peut-être de l'incident qu'il y avait eu, par exemple, dans le golfe du Mexique. Alors que le pétrole, la grande, ils avaient creusé, ils extraient du pétrole, ils font l'extraction du pétrole, les grandes compagnies, et c'était à 1,5 km de profondeur dans l'océan, et puis après, ils avaient ces tuyaux qui descendaient à des profondeurs incroyables, et puis soudainement, ça a brisé, et là, le pétrole s'est mis à gicler, vraiment à sortir à pleine capacité dans l'océan, et ça a amené, une pollution énorme, détruisant l'écosystème là-bas, mais on se dit, ben, c'est loin de nous, c'est peut-être heureux, mais c'était pas heureux parce que il y a eu un impact sur les prix des fruits de mer à beaucoup d'échelles parce que c'est un endroit où ils en produisaient beaucoup. Donc, les écosystèmes sont tous interreliés, non seulement les écosystèmes vivants, mais les écosystèmes vivants sont reliés aux écosystèmes économiques. Tout est lié et tout est en interdépendance, en fin de compte. Voilà l'esprit du troisième. Alors, retenez conscience de soi, conscience communautaire et conscience planétaire. Voilà.
Rino, puis en vous écoutant aussi, je revois aussi là, un peu l'influence que vous avez eue au sein de notre ministère de l'Éducation, où est-ce qu'on parle beaucoup de l'art de s'entreprendre. Donc, vraiment, là, pas juste avoir une entreprise comme vous avez mentionné, mais que l'élève ait le désir de s'entreprendre puis prendre action et de pas juste être là passif, mais vraiment être au premier plan de ses apprentissages et au sens plus large, avoir un impact sur soi, sur sa communauté et sur sa planète.
Eh bien, assurément, puis effectivement, je dirais que parmi tous les mots ou les notions disons, que j'amènerais au niveau du ministère de l'Éducation au tout début, c'était cette notion sur laquelle moi je travaillais depuis les années 90, d'apprendre à s'entreprendre. Qui était le d'ailleurs, quand on retrouve dans toute la littérature qu'on a pu écrire, c'est le premier mot qui vient. C'est-à-dire, on disait toujours apprendre à s'entreprendre. Il y avait trois grandes compétences sur lesquelles, et qui continuent, hein, ces trois grandes compétences qui soutiennent tout ce modèle d'école communautaire entrepreneuriale qui, en passant, là, je fais une petite parenthèse en vous disant que de plus en plus à travers le monde, les gens l'appellent l'école communautaire entrepreneuriale consciente. Vous voyez déjà le sens, hein?
Oui.
C'est cette idée d'insister sur la conscience. plus que jamais, il faut insister là-dessus. Il ne faut pas laisser aller l'entrepreneuriat à tout vent, alors que c'est ce même entrepreneuriat, et puis en combinaison avec des influences politiques et l'un influencer l'autre, qui peut-être met cette vie sur la planète aujourd'hui en jeu, véritablement. Donc, tout ça va ensemble. Alors, on insistait et on a toujours insisté sur trois grandes compétences. Un, apprendre à s'entreprendre, apprendre à entreprendre, apprendre aussi à créer de l'innovation de façon consciente. Vous voyez, le mot conscient revient de nouveau. Responsable et autonome. Il est capable aussi d'agir en équipe, de travailler en équipe. Ça suppose ça parce que on peut plus imaginer un monde où, d'ailleurs, moi je dis souvent en conférence, agir seul n'est plus la solution. Et c'est là le sens même, en tout cas profond, de cette notion d'école communautaire. C'est d'agir avec les autres pour soi et pour les autres. Alors, puis il y a une logique énorme là-dedans parce que tout le monde sait qu'un enseignant est porteur de, c'est le maître de la pédagogie. Hein, c'est pourquoi on le paye, parce qu'il est un pédagogue. C'est quelqu'un qui possède l'art d'enseigner. Hein. Maintenant, quand on veut aller plus loin dans le développement des compétences, ben, on gagne aussi à créer de multiples liens avec l'environnement de vie d'une école, avec les forces qui y sont présentes. C'est chez les parents, hein, c'est dans la communauté entrepreneuriale aussi. Donc, toutes ces forces présentes autour d'une école, si on sait et on apprend à les mettre en lien avec l'école, avec les enseignants, ben là, on permet aux jeunes de développer de nouvelles compétences et d'aller vers ce qu'on appelle, nous, une éducation plus globale. Et de ne plus s'arrêter, par exemple, à la stricte notion, je dirais, d'une école qui scolarise. Parce que, je termine là-dessus en vous disant, puis on peut en parler davantage si vous souhaitez, mais l'école, depuis 170 ans, s'était beaucoup concentrée à une chose, à scolariser, autour de la note en mathématiques, d'apprendre à lire, à écrire, à calculer, à enseigner des connaissances générales. Et là, j'insiste sur quelque chose d'important, parce que les gens, parfois, ils disaient, est-ce qu'on va sacrifier avec ce type d'école-là, cette idée-là même, d'apprendre à lire, à écrire, à calculer? Absolument pas. Au contraire, c'est là-dessus qu'il faut focaliser. Mais si on veut motiver et engager les élèves envers leurs apprentissages, tels que ceux qu'on décrit actuellement, ben, il faut imaginer des contextes pédagogiques qui vont le favoriser aussi, qui vont les motiver, qui vont les engager. Puis on sait que dans notre monde aujourd'hui, que ça, là encore, même s'il faut insister sur ces apprentissages scolaires, c'est évident, il faut pas penser que pour autant que ça sera en opposition, par exemple, à l'idée d'une éducation plus globale. Et moi, d'ailleurs, je le dis, au Nouveau-Brunswick, le Nouveau-Brunswick s'est toujours démarqué. Le Nouveau-Brunswick a toujours voulu sortir des sentiers battus. Moi, je m'en souviens quand j'étais là, puis ça s'était même passé bien avant que j'y arrive. Les gens ont toujours fait des efforts incroyables. Puis il y a toujours quelque chose qui a marqué le Nouveau-Brunswick, en tout cas chez les enseignants francophones, que même moi, quand j'étais au ministère, c'était dit, ça, ce que je vous dis là, c'est pas moi qui l'invente, c'est le côté anglophone qui était à mes collègues qui disaient, vous, les francophones, le sens de la communauté, vous l'avez. Vous, les francophones, etc. On nous voyait très grand à ce niveau-là. Puis peut-être qu'il faut se le dire, parce que parfois, en tant que francophone, on a tendance à se dire, on n'est pas si bon que ça, on n'ose pas. Mais l'idée d'une culture entrepreneuriale consciente, c'est justement apprendre aussi à se faire confiance. Puis ça commence, si on veut y arriver, je pense que c'est important d'apprendre à faire confiance aux enfants. Et c'est ce que fait actuellement le ministère de l'Éducation de Nouveau-Brunswick. Avec les commissions, les districts scolaires plutôt, il y a un effort absolument incroyable et il y a une ouverture à ces égards-là qui, à mon avis, donne beaucoup, beaucoup d'espoir à l'éducation. Puis je ne serais pas étonné que dans quelques années, le Nouveau-Brunswick serve de référence à beaucoup d'autres ministères d'éducation, non seulement au Canada, mais beaucoup plus largement.
Merci Rino. Puis moi, ce que je retiens dans le fond du terme conscient, c'est que nous, justement, au Nouveau-Brunswick, on veut aussi aller vers un système qui promouvoit le développement de compétences chez nos élèves, puis on veut le faire aussi de façon consciente. Donc, je pense que ça peut rejoindre aussi tout ce que vous avez parlé par rapport à l'entrepreneuriat, mais on veut aussi développer des compétences de façon consciente. Maintenant, je vous amènerai peut-être sur un autre sujet qui est peut-être plus proche de vous. Donc, vous êtes le fondateur de Idée Éducation Entrepreneuriale. Donc, pouvez-vous nous parler un peu plus de cet organisme-là, puis quel genre de service que vous offrez, puis comment un enseignant, une école ou une industrie scolaire pourrait bénéficier de votre apport?
De multiples façons. D'abord, idée, merci beaucoup de poser cette question. Idée éducation entrepreneuriale, c'est un organisme à but non lucratif, faut le dire, qui œuvre principalement là, vraiment en éducation. On a une structure, vous savez ce qu'est une OBNL, une organisme à but non lucratif. Certains les appellent les associations à but non lucratif. C'est la même chose, là. On parle exactement de la même chose. Et on forme une organisation qui comprend un certain nombre de choses désormais. D'abord, tout un service autour de l'école communautaire entrepreneuriale ou école communautaire entrepreneuriale consciente pour accompagner trois choses. Cette philosophie-là, ce mouvement-là dans les écoles. Aussi, parce que moi, je dis souvent qu'une école sans philosophie, c'est une école sans âme. Bien sûr, chaque école peut avoir son âme. Celle-ci, c'en est une qui a sa particularité, tout simplement. Aussi, on accompagne une pédagogie qui est non seulement structurée, mais je dirais très structurante en soi, qui s'appelle la pédagogie entrepreneuriale consciente, ou souvent on appelle ça l'approche pédagogique et éducative, parce qu'il y a deux fonction en entrepreneuriat conscient. Parce que on a beau parler d'une philosophie, si on veut que ça atterrisse en salle de classe, hein, que ça s'intègre dans les cours, il faut une pédagogie, fondamentalement. Et l'autre chose, c'est qu'on accompagne aussi l'organisation en tant que telle de cette façon de faire à l'école autour de ce qu'on appelle, nous, des composantes structurantes multiples. Qui, elles, sont implantées progressivement dans les écoles ou selon le choix des élèves. Déjà, on a une école au Nouveau-Brunswick, dans la région d'Edmundston, l'école de Claire, qui, elle, a été vraiment reconnue comme une école, parce qu'on a un système de valorisation là qui a été développé, qui va de ECE ou ESSEC. ECE veut dire École communautaire entrepreneuriale. ESSEC, c'est École communautaire entrepreneuriale consciente. C'est la même chose. On a 5 gradations, soit que l'école est en mode expérimental. Deuxième volet serait émergente, où là, elle aurait implanté, par exemple, 2 composantes structurantes sur 21 qui peut être implantées. Ou bien encore, qu'elle serait phare. Alors là, on est vraiment dans un projet éducatif plus structuré, où il va y avoir 3, même 5 composantes là, qui vont avoir été développées dans cette école-là. Elle peut devenir étoile. Alors là, ça s'élève encore. On est à 7 composantes structurantes qui vont avoir été développées et implantées dans cette école. C'est le cas, par exemple, d'une de vos écoles en passant, qui est déjà équivalent à étoile et qui travaille pour devenir un modèle phare qui est dans la région de Memorandum, par exemple. On a travaillé avec eux il y a 2 ans et on continue là, d'avoir une relation avec cette école-là dans votre district scolaire. Mais celle d'Edmundston, elle a eu Quasar, c'est-à-dire là où non seulement c'est-à-dire que c'est le niveau le plus élevé actuellement qui suppose que sur les quelques 21 composantes structurantes qui peuvent être mises en place à l'école, elle en a mis 12. 12, ce qui est considérable, évidemment. Donc, c'est une école qui a eu une décoration tout à fait particulière à cet égard-là il y a déjà 3 ans à peu près. Il me semble que c'est à peu près 3 ans. Et donc, voilà. Donc, le modèle, nous, on fait ce travail-là. En plus de ça, on a développé des offres de services qui sont affichées au haut de notre site. Par exemple, on a tout un réseau international aujourd'hui d'écoles communautaires entrepreneuriales conscientes qui s'appelle OASEC, qui veut dire Organisation internationale des écoles communautaires entrepreneuriales conscientes. Là, on en a 174 maintenant des écoles. Avec des écoles qui sont beaucoup ajoutées du côté de l'Ontario, celles du Nouveau-Brunswick qui ont... Alors, quand on dit 174, ça veut dire toutes les écoles qui ont été inspirées d'une manière ou d'une autre par ce modèle-là. Et ils ne sont pas toutes accompagnées par nous au jour le jour, parce qu'il y en a qui l'ont été comme au Nouveau-Brunswick dans le passé, d'autres qui continuent de l'être au Nouveau-Brunswick aujourd'hui par l'organisation en place au Nouveau-Brunswick. Mais on en a au Québec une quarantaine, on en a en Ontario, ça commence à être un nombre assez important. On en a dans 8 pays différents. Et ce sont des écoles primaires, des écoles secondaires, des écoles de formation professionnelle qu'on accompagne à travers le monde. Il y a même l'Université Laval, qui est devenue la première université à avancer avec cette philosophie-là de l'entrepreneuriat conscient. Eux, ils appellent ça l'entrepreneuriat responsable. C'est la même source, c'est la même chose. Donc, évidemment, à l'université, là, il y a des particularités. Je veux faire attention quand je dis que c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une spécificité propre, puisque, évidemment, une université, c'est une université, ce n'est pas une école secondaire, encore moins, c'est ni non plus une école primaire. Mais c'est quand même encourageant de voir que, de plus en plus large, on veuille exploiter cette idée-là dans toutes sortes d'institutions, en fait. On offre aussi un nouveau service qui s'appelle « Bonheur à l'école ». Je vous fais un scoop aujourd'hui. C'est une structure qui va comprendre 3 services. Bonheur à l'école, là, pour vous en donner un mot, là, déjà, là, c'est toute une... D'ailleurs, nous avons vu que ça a commencé. C'est un ensemble de services pour contribuer au mieux-être, contribuer à la résilience, au leadership positif, mais beaucoup plus. C'est d'amener, finalement, c'est une offre globale qui veut réellement aider à arriver à plus de bien-être, à une santé globale, améliorée dans les milieux scolaires. Parce que aujourd'hui, là, vous n'êtes pas sans savoir tous les phénomènes d'anxiété, de stress qu'on a dans nos milieux, dans nos écoles. Les gens ressentent beaucoup de pression et ça amène des phénomènes qui sont malheureux, souvent. Même les plus extrêmes, hein, on peut vous en nommer, incluant le suicide, par exemple, chez les jeunes. Donc, il faut vraiment essayer d'amener, et ça, nous approche par rapport à Bonheur à l'école, c'est vraiment à partir de d'ailleurs, Bill Morrison au Nouveau-Brunswick, M. Robert Laurie qui travaille avec lui au Nouveau-Brunswick, à UNB, sont des gens qui ont développé une expertise à ce niveau-là. Et nous, on a décidé d'en créer un service avec eux, mais avec d'autres aussi partenaires, un service complet qu'on appelle Bonheur à l'école. Et là, ben, on a décidé d'aller plus loin que ça, à la demande qui nous venait d'un peu partout, et c'est là qu'on sort de l'extérieur de l'école, où on va avoir un projet qui s'appelle Bonheur, bien-être au travail et un autre qui s'appelle Bonheur à la maison. Et tout ça sous une grande vision qu'on a appelée LYKE. LYKE, ça s'écrit L-Y-K-K-E, donc 2 K. C'est un mot danois. Et le Danemark actuellement, ça veut dire bonheur en danois. Le Danemark, on dit du Danemark, et c'est un des pays où il y a l'expérimentation du bonheur est le plus important, avec le Bhoutan, par exemple, qui est un autre pays, pas très loin de l'Himalaya, en fait, situé dans cette zone-là du monde, pas loin du Népal. Donc, et les Nations Unies nous invitent à travailler dans cette perspective-là aussi, parce qu'on, justement, pour contrer ces phénomènes de stress et d'anxiété, qui, finalement, amène beaucoup de souffrance dans nos milieux, dans des écoles, à la maison, au travail aussi. Je termine en vous disant tout simplement que là, on vient de lancer une nouvelle initiative qui s'appelle « J'ai une idée, s'entreprendre et s'engager à la maison ». Donc, c'est une nouvelle initiative qui d'ailleurs, est en train de reprendre une formulation déjà qui va s'intituler « J'ai une idée, s'entreprendre et s'engager à l'école, à la maison, dans la vie ». Donc, ce projet-là est en cours. On a un site Internet. Il faut simplement faire www.s'entreprendrealamaison.ca et on a tout un projet qui a débuté là avec toute l'histoire de la COVID-19, justement, puisque nous, on ne pouvait plus atteindre les jeunes, c'est-à-dire aller accompagner les écoles puisqu'ils étaient fermés, ni non plus offrir les services qu'on offre aux jeunes. Donc, on a décidé d'innover. On a réuni un groupe de personnes extraordinaires, plus de 35 personnes déjà, des spécialistes des technologies, du web, de l'infographie, et un groupe de pédagogues, plus de 21 personnes, qui chaque semaine préparent des thématiques, des scénarisations autour de thématiques, des scénarisations éducatives pour permettre là d'encourager les jeunes à faire des petites activités, des petits projets de type entrepreneurial, conscient et responsable, directement dans leur maison. Voilà.
Justement, Rino, donc on voit que votre organisation permet de vivre justement cet entrepreneuriat conscient-là, puis vous vous êtes doté de structures pour accompagner, je vais dire les écoles, mais il y a aussi une université que vous accompagnez pour justement que ça se vive de différentes façons. Peut-être maintenant que vous avez abordé un peu là, votre projet de « J'ai une idée, c'est entreprendre à la maison », pouvez-vous nous présenter un peu plus quel type de tâches qu'un élève peut avoir dans ce site-là, puis comment il pourrait bénéficier de cet accompagnement-là, puis qu'est-ce qui serait le lien à faire avec l'entrepreneuriat conscient?
Ah, écoute, il y a plusieurs liens. D'abord, sur le site, là, il est très documenté. On a des documents qui explicitent ça, qui sont vulgarisés pour les parents, là, en passant, mais aussi pour les enseignants qui voudraient participer, parce que les gens sont confinés, bien sûr. Donc, d'une part, mais en gros, pour être très simple là, sur notre formule, c'est qu'on a dit, ben oui, envoyez, nous en passant, là, je vais faire une note tout de suite, le dire, on n'est pas du tout là pour remplacer le ministère de l'Éducation au Québec ou au Nouveau-Brunswick ou ailleurs. Là. C'est ni non plus remplacer l'extraordinaire travail que font les districts scolaires. Là. C'est plutôt une offre complémentaire. OK, par rapport à tout ce qui se fait déjà, qui est absolument magnifique, parce que vous avez sûrement remarqué comme moi que vraiment les gens innovent par les temps qui courent et le monde de l'éducation aussi. Donc, on est là dans cette perspective-là. Donc, s'entreprendre et s'engager à la maison, ce sont toutes les semaines, à 9h30 le lundi matin, par exemple, la thématique entrepreneuriale consciente et responsable est animée pendant 20-25 minutes. 30 minutes maximum. Et ça, c'est tout simplement pour inspirer des idées, pour amener les jeunes à voir des possibilités, des choses qu'on pourrait faire. Et la thématique peut être aussi quelque chose d'aussi large que, par exemple, l'isolement des personnes âgées. Que puis-je faire? Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire, moi, une petite activité, un petit projet? Ça peut être de l'entrepreneuriat artistique, par exemple, où, tiens, je prépare un petit spectacle pour grand-papa, grand-maman qu'on va enregistrer, qu'on va pouvoir remettre et leur partager ça. Ça peut être de l'entrepreneuriat culturel, quelque chose un enfant qui dirait, ben moi je vais faire une petite œuvre d'art, mais pourquoi pas décider d'aller plus loin, de pas s'en tenir qu'à ça, mais à décider par exemple d'en faire un petit vernissage. Après une semaine ou deux sur lequel projet on aurait travaillé, peut-être le petit frère, la petite sœur, peut-être maman, papa avec les enfants. Puis tiens, encore une fois, de mettre ça en valeur avec des outils numériques, par exemple. Parce que nous, on a une zone de partage sur notre site Internet qui permet de partager à toute la communauté. Et les bonnes idées sont reprises le vendredi. Je vais vous revenir avec ça après. Donc, ça peut être de l'entrepreneuriat de toute nature. Ça pourrait être touristique. Ça pourrait être quelque chose en lien avec l'entrepreneuriat, je dirais, plus communautaire. Je vous donne un exemple encore, c'est la saison printanière. Ben, ça peut permettre la préparation de semis, un petit jardin qui pourrait servir à partager, par exemple, avec son entourage un peu plus tard lorsque les choses seront prêtes. On est dans le développement durable, vous voyez, on est dans quelque chose qui est proche de nous, comme nous invitent de plus en plus nos gouvernements à le faire. D'ailleurs, je vous ferai une note là-dessus sur le développement durable, puisque notre organisation y est vraiment intensément associée. Chaque fois qu'on annonce une thématique, on associe toujours ça avec un ou deux objectifs du développement durable que proposent les Nations Unies. Pour les gens là, qui ne savent pas, il y a 17 grands objectifs autour du développement durable que les Nations Unies invitent tous les pays du monde à contribuer déjà depuis 4-5 ans. Et nous, ben, on est dans cette démarche-là. Là. Et l'entrepreneuriat conscient est associé justement. Le mot conscient associé aux objectifs du développement durable qu'on retrouve facilement sur n'importe quel site Internet. Chaque semaine, voilà. Et puis après, dans les jours qui suivent, là, déjà dans l'après-midi du lundi, le mardi, le mercredi, jeudi, nous, on a 95 personnes même là, ça va dépasser 100 personnes maintenant, qui sont associées à nous, qui proviennent des commissions scolaires du Québec, déjà près d'une quinzaine de commissions scolaires au Québec, et aussi de l'Ontario, pour venir là agir un peu comme une structure relais en éducation. C'est-à-dire que il y a des familles, il y a des jeunes qui ont compris la thématique, mais ils sont un petit peu bloqués là. Ils aimeraient avoir un petit coaching. Comment je pourrais donc faire pour déclencher mon petit projet ou avoir un petit coaching en cours de projet parce qu'on est en train de vivre un petit défi, par exemple. On aimerait le résoudre. Donc, on est capable de contacter l'une des personnes qui est disponible. Nous, c'est affiché. Et d'ailleurs, c'est pas. Alors, je vous parle en passant, c'est en train de tout être affiché, tout ça, sur le site Internet, parce que chaque semaine, vous voyez, là, on a créé ça, on a le temps de le dire, mais on est à notre quatrième semaine aujourd'hui. Et déjà, à partir de la semaine prochaine, les jeunes vont pouvoir rejoindre de ces éducateurs-là là, de manière beaucoup plus libre. Donc, parmi les personnes que nous avons, on a des gens qui répondent à la grandeur du Québec, parce que la plupart, ce sont des gens du Québec. Mais aussi, certaines personnes sont associées à des commissions scolaires. Ils font partie peut-être des services éducatifs. Ça peut être un conseiller pédagogique, peut-être un enseignant, une direction d'école, qui, eux, volontairement, acceptent de prêter main forte pour venir donner ce petit coup de pouce-là à des enfants en s'affichant, par exemple, sur notre site Internet à des heures où la personne accepte d'être disponible. Ça peut être 1 heure, 2 heures par semaine, ça pourrait être 3, 4, 5 heures par semaine. Chaque personne est libre de s'afficher et d'afficher aussi ses temps de disponibilité, ce que nous, on indique, de manière à ce qu'ils puissent être contactés à ces heures-là, précisément, durant la semaine, par un enfant ou une maman, un papa, qui voudrait un petit coup de pouce. Alors, le vendredi, on boucle. On revient en onde, en direct, comme ce matin d'ailleurs. Et là, on va faire 2-3 choses. On va faire par exemple, on peut reprendre 1 ou 2-3 projets qui ont été marquants pour vraiment montrer ces projets-là en termes d'exemple. Et c'est valorisant, vous comprenez déjà, c'est un moment extrêmement valorisant pour ceux qui se font choisir. On peut pas choisir tout le monde, mais on en choisit 2-3 comme ça. Et puis après, on va aborder aussi des défis peut-être qui ont été rencontrés durant la semaine, de manière à ce que chaque semaine, là, les processus s'améliorent, que ça aille mieux. Le vendredi sert à boucler donc aux 2 choses plus ou moins que et ça vient renforcer la compréhension des jeunes, des familles, des mamans, des papas, des grands-papas autour de ce projet-là, parce qu'il y a beaucoup de monde qui participe déjà au Québec. On avait lancé ça le lundi de Pâques, voyez. Il y avait déjà 576 personnes qui ont participé lundi de Pâques. C'était congé. Et ça a grimpé, là, ça n'a pas arrêté de grimper. Puis à partir de la semaine prochaine, ça va être incroyable parce que déjà cette semaine, c'est confirmé les commissions scolaires qui ont commencé. On a plus de 12 commissions scolaires déjà là, qui ont commencé à faire la promotion. D'autres vont en faire. De sorte que là, on sait qu'il va y avoir un boom, je veux dire, de participation déjà la semaine prochaine. On est justement en train de prévoir le coup parce que on sait que, par exemple, qu'il va y avoir évidemment un achalandage de plus en plus important. Donc, on a dû là véritablement se donner une nouvelle version de notre site Internet. On appelle ça la version 2.0 avec un environnement nouveau, mais avec quelque chose de beaucoup plus robuste là, qui va permettre d'accueillir là toutes les personnes qui veulent participer. Bien sûr, au Québec, mais on en a de l'Ontario et déjà, on en a de la francophonie internationale. Et d'ailleurs, je lance une invitation généreuse et du cœur aux familles, aux enfants du Nouveau-Brunswick qui aimeraient participer. C'est gratuit. Donc, il s'agit tout simplement d'aller sur le site Internet et on peut à n'importe quel moment aller écouter, réécouter certaines thématiques et réaliser une petite activité, un petit projet entrepreneurial. Et puis voilà, on peut après, en cours de semaine ou la semaine suivante, nous le partager. Et nous, là, on va le partager à toute la communauté. Qui sait, peut-être même que le projet sera vu comme un exemple, un modèle à suivre. Et là, on le vendredi, justement, lorsqu'on conclut la semaine, qu'on boucle la semaine, ça nous fera vraiment plaisir là d'exposer cet exemple-là, qui serait, par exemple, un projet d'un enfant, d'une famille du Nouveau-Brunswick.
Donc, Rino Lévesque, merci de nous avoir éduqués sur cet esprit d'apprendre à s'entreprendre, où est-ce qu'on veut faire de l'entrepreneur conscient à trois niveaux, dans le fond, la conscience de soi, la conscience communautaire, la conscience planétaire. Je vous remercie d'avoir pris du temps dans votre horaire chargé pour justement enregistrer cette entrevue-là. Puis, sincèrement, continuez vos beaux travaux, c'est bien apprécié.
Mais écoutez, c'est moi qui vous remercie. C'est chaque fois. Chaque occasion qu'il y a comme ça pour moi de parler à l'auditoire acadien et francophone de Brunswick, c'est vraiment, vraiment un plaisir. Et puis, on insiste beaucoup sur deux choses, M. Gauthier. L'idée de s'entreprendre, oui, mais l'idée aussi d'apprendre à s'engager. Je pense que c'est important aujourd'hui, de nos jours. Donc, merci encore une fois, puis salutations à toute la population acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick.
Voici maintenant les questions en vrac. Quel apprentissage as-tu fait que tu aurais aimé avoir eu au début de ta carrière?
Alors, ouf là là, quelle belle question! Un des apprentissages que je vais t'amener à faire, moi, c'est à bien travailler avec les autres. Je pense que c'est une des choses les plus intéressantes et les plus importantes. Apprendre à travailler avec les autres, à être complémentaire des autres, à écouter aussi les solutions qui viennent des autres. Évidemment, c'est des choses que j'ai appris au fil du temps. Et puis, une des choses que j'ai beaucoup appris, c'est de donner du temps au temps. Je ne sais pas si vous connaissez cette maxime ou ce grand proverbe qui disait « Le temps méprise ce qui se fait sans lui ».
Parle-moi d'un geste que de tes enseignants a fait qui t'a marqué.
Écoutez, moi, j'ai eu une enseignante un jour qui m'avait dit quelque chose d'extrêmement intéressant. Moi, j'étais directeur d'école. Cette enseignante-là était une enseignante de cinquième année, en primaire, cinquième année, et qui avait dit, tu sais, Rino, parce qu'on était dans une école où il y avait beaucoup d'enfants qui étaient défavorisés socialement, tu sais, qui vivaient dans des familles qui étaient moins nantis. Et il y avait donc des défis importants. Et elle avait dit, tu sais, chaque jour, là, elle dit, avec un ou l'autre des enfants, elle dit, on fait des petits miracles. J'avais tellement aimé cette expression, petits miracles, réaliser des petits miracles, parce que c'est bien ce que fait l'éducation, hein. Au Nouveau-Brunswick, d'ailleurs, c'est le cas souvent, j'imagine, dans les classes, que ce soit au primaire ou au secondaire, c'est de réaliser, de faire des petits miracles, ce qui veut dire des enfants là qui s'apprennent à qui on donne la possibilité de s'épanouir, de réussir, mais pas juste de réussir d'un point de vue scolaire, mais de réussir d'un point de vue éducatif aussi, de réussir plus globalement, d'être fier d'eux. Donc pour moi, cette enseignante-là m'avait beaucoup marqué.
À ton avis, quel est le rôle de l'école?
Ah, l'école a un rôle, désormais, là, l'école a un rôle de contribuer à un nouvel équilibre. Puis je l'ai dit déjà en conférence, de se débarrasser du conformisme qu'on avait été habitué d'avoir. Puis je sais que le Nouveau-Brunswick, justement, s'en est très bien sorti à cet égard-là et continue de le faire. Je tiens à le dire, je ne le dis pas pour faire des flatteries, je le dis parce que c'est quelque chose que je pense sincèrement. Pour moi, ce qui me marque par rapport au Nouveau-Brunswick, c'est l'engagement des enseignants, l'engagement des communautés scolaires, c'est absolument incroyable. Donc voilà. Pour moi là, c'est vraiment ce que je trouve très très important quoi.
À ton avis, quel est le plus grand mythe par rapport à l'innovation en éducation?
C'est peut-être de croire, parce qu'en éducation, on a parfois l'impression, en tout cas, il y a eu beaucoup de gens qui ont eu l'impression qu'innover, ce n'était pas pour eux. On a l'impression que c'est quelque chose qui est réservé au monde de l'entreprise, par exemple, ou qui est à l'extérieur de nous, qui est loin de soi. Et pourtant, l'éducation innove en continu, de toutes sortes de manières. Donc, le mythe le plus important en éducation, c'est cette pensée que l'éducation n'est pas capable d'innover. Pourtant, l'éducation est capable d'innover au sens qu'elle est capable d'amener des progrès, amener des équilibres nouveaux, entre, je le disais précédemment, entre l'idée même de scolariser et d'éduquer plus globalement. Et ça suppose sortir des sentiers battus. Les gens parlent de compétences du 21e siècle et de plus en plus d'écoles arrivent à le faire. Donc, pour moi, le mythe d'être capable d'y parvenir en éducation, par exemple, certains l'ont pensé pendant longtemps, hein. Vous savez, surtout nous, les communautés francophones. Moi, je me souviens, au moment où j'étais arrivé au Nouveau-Brunswick, combien de fois j'entendais dire des enseignants, moi, vous savez, hein, ce que je fais, c'est juste normal, là. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais quand on fouillait, on s'apercevait que c'était extraordinaire. Mais c'est comme si que les gens le cachaient. Hein. On est dans la culture francophone, cette impression d'être né pour un petit pain. C'est encore vrai, mais on s'en sort de plus en plus.
Et c'est maintenant le temps de vous présenter notre outil technopédagogique. Cette semaine, je voudrais revisiter avec vous l'outil technopédagogique Teams, parce que j'ai appris à travailler avec une nouvelle fonctionnalité de cet outil, qui est de faire des événements en direct. Donc, pour tenir un événement en direct, on a différents rôles. On a le rôle de producteur, le rôle de présentateur et le rôle d'auditeur. Donc, le producteur, ça va être la personne qui gère qu'est-ce qui va être diffusé dans l'événement. Les présentateurs sont des gens qui peuvent intervenir dans la session et qui ont le droit de parole lorsque le producteur leur active. Et finalement, les auditeurs, eux, ont un rôle passif, peuvent écouter la session, mais on ne peut pas les voir en vidéo ni avoir une interaction audio. Par contre, on peut aller faire une certaine interaction avec le questions et réponses avec l'auditoire. Quand est-ce qu'on utiliserait ça? Lorsqu'on va avoir une présentation un peu plus formelle, à sens unique, où est-ce qu'on veut pas nécessairement que tous les intervenants puissent parler en même temps. Donc, lorsqu'on a plusieurs personnes qui assistent à l'événement, ce serait parfait. Donc, avec la nouvelle réalité, probablement que les événements de soirée porte ouverte, de rencontre avec des parents qui... la fameuse rencontre en début d'année où est-ce que la direction rencontre tous les parents, on pourrait faire ça, les graduations. Donc, c'est tous des événements qu'on peut diffuser comme ça. Les limites par rapport à un événement en direct, traditionnellement, étaient de 10 000 auditeurs pour un seul événement. Puis, pour la COVID, Microsoft a augmenté la limite à 20 000 pour jusqu'au mois de juillet, puis on verra qu'est-ce qui va servir par la suite. Dans mon district, nous l'avons utilisé pour offrir de la formation aux 1000 enseignants qui sont dans les écoles. Et je vous dirais que ça a bien été utilisé. Faut certainement pas commencer avec un événement en direct aussi grande envergure. On a fait quelques tests auparavant, puis on a réussi à faire cet événement-là quand même assez aisément et rejoindre plus de 1000 personnes en même temps. Donc, nous avons bien apprécié, puis c'est un outil qui est très puissant. Donc, ceci conclut notre épisode. J'espère que vous avez apprécié, puis on se revoit pour le prochain. Voilà, c'était tout pour cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me contacter pour me partager votre rétroaction. Vous pouvez le faire sur Twitter, soit sur le compte de la balado à commercial balado InnovEd ou sur mon compte personnel à commercial Matt Goats, MattGauths. De plus, n'hésitez pas à vous abonner à cette balado. À la prochaine!